Bienvenue dans Le Débat. Imaginez un instant un casino où la direction vous laisse gagner juste assez de parties pour vous convaincre de rester à la table alors que les dés sont en réalité pipés depuis le début. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse politique complexe, les élections cambodgiennes du 26 juillet 1998.
Tout à fait.
Pour ma part, je suis convaincue que ce scrutin, malgré ses profondes imperfections, c'était un compromis pragmatique vital, vraiment le seul moyen de stabiliser un pays exsangue. Mais vous, de votre côté, vous soutenez qu'il s'agissait plutôt d'une simple validation de façade pour le coup de force de 1997, verrouillant ainsi l'État.
C'est exactement ça. Pour moi, ce n'était pas un compromis. C'était une mise en scène magistrale.
Pourtant, regardons l'événement en lui-même. On parle de près de 94% de participation. C'est énorme. Les Cambodgiens, qui étaient traumatisés par des décennies de guerre civile et le génocide Khmer Rouge, se sont déplacés en masse. Et le résultat n'est pas un raz-de-marée totalitaire.
Pas au sens strict, non, mais...
Le parti de Hun Sen, le PPC, avec 41,4% des voix et 74 sièges, n'a pas obtenu la majorité absolue. Il a dû en concéder 43 au mouvement royaliste, le Fong Sin Pek, et quelques-uns à l'opposition. C'est la preuve concrète d'une volonté farouche de normalisation, non?
Vous parlez de normalisation, mais regardez un peu le climat de terreur dans lequel ces électeurs ont voté. Faut pas oublier qu'on est un an seulement après que Hun Sen a évincé son co-premier ministre par les armes.
Oui, le contexte était tendu.
Tendu? Il y a eu au moins 89 exécutions extrajudiciaires visant le camp royaliste, sans compter l'attentat meurtrier à la grenade devant l'Assemblée nationale l'année d'avant. Donc cette participation massive, c'était pas qu'un élan d'espoir, c'était un instinct de survie face à la crainte de représailles pour ceux qui boycotteraient les urnes.
Donc vous lisez cette participation comme de la pure peur. Je comprends. Mais institutionnellement, une scène a bien été bloquée par ce vote. La Constitution exigeait une majorité des deux tiers pour gouverner seul. Majorité qu'il n'a pas obtenue.
C'est vrai, sur le papier.
Et dans les faits aussi. Il a été contraint de négocier ce fameux accord en novembre 1998 et de céder la présidence de l'Assemblée nationale à son grand rival, le prince Ranaride. Mécaniquement, l'élection a forcé un partage du pouvoir. Comment pouvez-vous appeler ça une simple façade?
Parce que ce partage du pouvoir, c'était une coquille vide, purement et simplement. Hun Sen a concédé des titres prestigieux, oui, comme cette présidence de l'Assemblée, mais il a gardé la mainmise absolue sur les vrais rouages de l'État, l'armée, la police, les finances.
Il a gardé les ministères clés.
Exactement. Les royalistes n'ont obtenu que des portefeuilles secondaires. C'est là qu'est le piège, en fait. Il offre l'illusion du pouvoir à l'opposition pour légitimer son propre contrôle. Et d'ailleurs, la machine électorale elle-même était verrouillée. Sur plus de 800 plaintes pour irrégularité déposées, seules 304 ont été examinées.
Oui, le CNE était débordé.
Débordé ou impuissant. Ce comité national des élections, censé être indépendant, n'avait aucun pouvoir réel pour enquêter sur la campagne d'intimidation massive orchestrée par le PPC.
C'est un point fascinant sur la mécanique de cette hégémonie. Hun Sen lâche des miettes symboliques pour garder le gâteau institutionnel. Mais même si ce compromis était biaisé dans ses rouages, regardons un instant ses effets sur le terrain. Cette architecture politique a fonctionné.
Fonctionner, c'est un grand mot.
Elle a permis la reddition des tout derniers combattants Khmer Rouge dès 1999. Elle a ouvert la voie à l'intégration économique du Cambodge dans l'ASEAN. Ne fallait-il pas cette poigne, cette stabilité un peu forcée, pour que le Cambodge moderne puisse simplement exister et se reconstruire?
Le problème de ce pragmatisme, c'est que le prix de cette stabilité, ça a été la destruction de toute véritable alternative politique future. Ce que le PPC a appris en 1998, c'est qu'il pouvait manipuler la mécanique démocratique de l'intérieur, et ça, sans que la communauté internationale ne réagisse vraiment.
Ils ont créé un précédent.
Absolument. Et ce schéma s'est pérennisé. C'est exactement cette même logique qui a permis, bien plus tard, la dissolution pure et simple du principal parti d'opposition en 2018, et c'est ce qui a rendu possible la succession dynastique sans heurte vers une manée en 2023. Le 26 juillet 1998, c'est pas le jour du sauvetage du Cambodge, c'est la cristallisation d'un modèle coercitif durable.
On touche vraiment à notre tension fondamentale ici. La stabilité civile immédiate d'un côté, obtenue au prix d'un système politique complètement verrouillé de l'autre. Mais au-delà de notre désaccord sur la légitimité profonde de ce scrutin, je crois qu'on converge sur son rôle fondateur. L'accord de 1998 a véritablement forgé l'ADN politique du pays.
C'est indéniable. C'est le moment précis où le système cambodgien a trouvé sa vraie nature, c'est-à-dire un parti dominant capable de perdre des voix dans les urnes sans jamais risquer de perdre le contrôle de l'État.
La question reste donc ouverte. Cette fondation institutionnelle était-elle un passage obligé et douloureux pour sortir du gouffre de la guerre, ou le moment précis où l'avenir démocratique du pays a été habilement neutralisé ? C'est une réflexion que nous vous invitons à poursuivre. Merci de nous avoir rejoints.